Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Voilà, c'est l'histoire d'un jingle qui va rester le plus longtemps possible à Radio Campus. Bienvenue à la conspiration des planches. On n'est pas dans cette mode de, à chaque saison changer sans jingle. On l'aime beaucoup. C'est une passation des anciens. L'équipe est au complet pour l'ouverture de saison des théâtres, des planches, des arts de la scène à Bruxelles. J'ai Nicolas, Elisabeth et Catherine. Quel plaisir de vous revoir. Salut tout le monde.
Bonjour.
Salut, bonne rentrée.
Alors, on ne change pas le titre de l'émission non plus, qui nous a été légué par les anciens, la conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Petite demi-heure pour épingler les productions qu'il y a dans nos théâtres à Bruxelles. Alors cette semaine, donc ouverture de saison, des créations et hasard du calendrier, des créations faites par des directeurs, des responsables d'institutions. On ira voir une création événement, cabaret, un musical au théâtre par le directeur du théâtre Le Public, mais sa salle est un peu petite, donc il squatte pour l'instant la grande salle du Théâtre National. On ira faire un tour du côté du théâtre de poche où le directeur metteur en scène Olivier Coët propose pornographie. On ira faire un tour du côté du théâtre poème où la directrice Dolores Oscari met en scène Tserklas de Tilly, un personnage historique belge. Et on ira faire un tour du côté des annonces. Il y a de très belles annonces, très bels événements à Bruxelles cette semaine. Mais là, je vais me retourner vers Nicolas parce que Nicolas adore le musical et il est parti voir cabaret, cette création, on peut dire, événement.
Une création événement, ben, à double titre, comme tu as dit. D'abord, 20 ans du public, un théâtre qui a marqué le paysage théâtral bruxellois. Et comme tu le disais en introduction, donc Le Public qui s'invite au Théâtre National pour son anniversaire. On ne reviendra pas ici, ce n'est pas le moment peut-être sur les considérations politiques autour de ça, mais chaque chose en son temps. On va parler plutôt du spectacle quand même. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas habitué chez nous à ce genre de choses. Hein. C'est du grand classique de la comédie musicale de Broadway, qui parle d'Europe aussi, il faut le dire. Hein. C'est pas mal non plus. C'est inspiré d'une histoire de Christopher Isherwood, grand écrivain anglais, et qui va nous emmener dans un petit cabaret au cœur du Berlin des années 30. Et on sait très bien ce qui se passe à Berlin dans les années 30, montée du nazisme évidemment en décor. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cabaret qui apparaît un peu comme un lieu de liberté totale où tout le monde vient s'encanailler? Il faut savoir aussi qu'à l'époque, Berlin, c'est le lieu de rencontre de toute l'Europe. Il y a plein de gens qui viennent, des Anglais, des Français, etc. etc. Mais évidemment, il y a un climat un petit peu malsain qui se crée au fur et à mesure. Et ça va se sentir légèrement tout au long de la pièce, mais le Kit Kat Club, ce cabaret, va rester un peu le lieu de liberté. Et qui a-t-il dans cette boîte de nuit? Il y a la belle Sally Bowles, c'est une Britannique, hein, je crois, c'est pas une Américaine, enfin en tout cas, c'est une Anglo-Saxonne, voilà, qui est un peu la meneuse de revue de ce cabaret, qui est engagée par aussi cette MC, ce meneur de jeu un peu mystérieux. Hein, dans le film, on se rappelle, oui, c'était un film aussi avec Liza Minnelli il y a quelques années. Et alors, va se retrouver dans ce cabaret et se faire séduire par cette Sally Bowles qui mène un petit peu une vie dilettante. Pour elle, c'est toujours la fête. Elle rêve de cette liberté. Et elle ne voit pas très bien que cette liberté, elle est en train de se ternir, de se flétrir. Par contre, Cliff Bradshaw, un jeune Américain écrivain en manque de sujet qui débarque à Berlin, eh bien, va lui faire ouvrir les yeux de par leur amour. Il va essayer de lui dire « Mais non, Sally, tu vas voir, c'est pas comme ça que ça se passe et il faut qu'on parte d'ici. » Voilà.
Et qui dit histoire dit musical, musique.
Évidemment, parce que ça se fait avec les numéros Dès qu'on dit cabaret, je suis sûr que la majorité du public se souvient de beaucoup de titres. Willkommen, Bienvenue, Welcome, Money, 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 Mein Lieber Herr. En fait, c'est tous des titres qu'on connaît de par le cinéma ou de par la comédie musicale. Et ces morceaux sont là, sont présents sur scène, donc dans cette mise en scène avec orchestre aussi sur scène, il faut le dire, sur la scène du National, dans une mise en scène qui a voulu peut-être la jouer plus sobre que Broadway, parce que, évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes, mais aussi parce qu'on n'est pas à Broadway et qu'il fallait proposer un produit peut-être qui était adapté pour le public. Finalement, ça, c'est pas trop mal. Et je trouve qu'en fait, on assiste à un produit honnête avec des chanteurs comédiens qui tiennent vraiment la route, la musique qui tient vraiment la route et un beau spectacle de divertissement. Mais évidemment, ça reste dans un classicisme assez, assez certain. Michel Castelnau-Lembouregen qui met en scène disait dans son intention que ça nous parle aujourd'hui toujours évidemment ces espaces de liberté qui sont menacés évidemment lorsque il y a plusieurs menaces et il y en a plein et d'autres à l'heure actuelle, mais je trouve dommage qu'il n'ait pas exploité les menaces actuelles et qu'il vient toujours encore avec c'est bien de rappeler encore que le nazisme a été quelque chose de dangereux, de menaçant pour la liberté d'expression, de cruel pour la liberté d'expression. Mais quand on amène un produit aussi marqué par le cinéma, par le théâtre, par Broadway, je trouve qu'on aurait pu encore l'emmener un petit peu plus haut, même si je reste convaincu que ça reste un bon spectacle et ils peuvent ressortir assez fiers de cette production. Mm-hmm. Maintenant, et à vous.
Catherine, toi, tu l'as vu à Broadway, on a l'occasion que tu l'aies vu à Broadway. Alors, ton
oui,
et ici aussi, évidemment.
Pas complètement par hasard, mais j'étais à New York cet été. Je me suis dit, tiens, si j'allais voir une comédie musicale, à Broadway, il faut quand même le faire. Et j'ai choisi Cabaret en sachant que je le verrai sans doute ici à Bruxelles. C'est vrai que si on compare les deux, le cabaret bruxellois n'a pas du tout à rougir en termes de moyens, en termes de côté pro. C'est un spectacle millimétré, c'est parfaitement exécuté. On joue, on chante, on danse. Ça manque un petit peu de fragilité, peut-être, en fait. C'est peut-être trop, justement, trop ciselé, mais c'est très pro.
Mmh. Alors, il faut dire aussi donc dans l'équipe, parce que c'est une vraie équipe, on parlait de Castelnau-Lembouregen à la mise en scène, Thierry Smith est aux chorégraphies, direction musicale, je ne l'ai plus sous les yeux, mais c'est Pascal Charpentier. Mmh. Ce sont quand même des trois figures assez majeures, je vais dire en tout cas des gens qui comptent, dans Thierry Smith également, effet, dans la chorégraphie, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus
cash. Mais il n'y a rien de neuf, tout est de bonne facture, oui. Ambition, et donc voilà, on ne va pas non plus pour révolutionner, donc c'est pas le propos. Il a fait un objet fidèle, ça peut tenir très longtemps. Moi, ce qui m'a touché, c'est pas du tout mon genre, la comédie musicale, c'est qu'on ait cette ambition en Belgique, que ça ne vient pas d'ailleurs. Mmh. Donc, pour une fois, c'est populaire, donc c'est un bon compromis. Mmh. Ça remplit les salles, mmh. Ça peut encore durer un mois. Donc, l'ambition est là.
Et alors, des images assez fortes, je trouve, notamment la fin. On ne le dévoilera évidemment pas, mais la fin, elle est soufflante. Mmh.
La chute est belle, mais là, il y a un petit travail.
Alors, il faut aussi parler de ce plateau qui tourne. Et quand je parlais de mise en scène, c'était vraiment ça. C'était de jouer peut-être sur quelque chose de technique d'un peu plus avancé, mais ce n'est pas non plus exagéré. Je veux dire, on n'a pas des décors de cabaret. C'est souvent suggéré, en tout cas. Et c'est une table qui est déplacée pour suggérer à l'intérieur d'un appartement, etc. etc. Et je trouve que ça file un petit peu, et c'est bien avec ce plateau roulant.
Moi, je dirais juste un mot de la fameuse chanteuse qui n'a pas... elle a tenu son rôle tout le long, avec force. Elle a une belle voix, elle a une belle présence.
Elle s'appelle Tayla Onrat.
Et d'avoir tenu ça tout le long comme ça, c'était la bonne découverte de ce spectacle. Donc vraiment, même si on aime ou on n'aime pas le musical, il y a quelque chose qui prend dans cet objet quand même assez singulier pour l'ouverture.
Qui va faire un carton.
Oui, déjà, les applaudissements, on l'a vu dans des soirées différentes, ça a été des gros applaudissements. Donc voilà.
Voilà, donc Cabaret. Alors ça se joue quand même pas mal de temps. C'est jusqu'au 1er octobre du côté du Théâtre National et ça va tourner. Et c'est à voir donc au Théâtre National pour le théâtre le public. Et vous allez sur les deux sites des théâtres, il y a tous les renseignements, soit théâtrelepublic.be, soit théâtrenational.be.
Alors on va aux poches là pour quelque chose de tout à fait différent. Un titre choc, hein. Catherine, toi qui aimes ça, pornographie.
on va enfin.
Les titres choc, tu veux dire. Pornographie.
Pornographie de Simon Stephens, dont on attendait beaucoup parce que Simon Stephens a écrit aussi Punk Rock, que moi personnellement j'avais adoré l'année dernière, sur le mal-être adolescent, un petit peu dans le style Bowling for Columbine. Donc on imagine comment ça finit, tragiquement, mais avec une espèce de suspense et une tension. Et moi j'en étais sortie épuisée, mais ravie en même temps, c'était une pièce formidable. Donc évidemment j'allais avec beaucoup d'attentes. J'ai été fort déçue. Alors, Simon Stephens s'est inspiré des attentats de juillet 2005 à Londres, attentat à la bombe dans le métro et dans le bus. Tout ça juste après l'euphorie qui avait suivi l'annonce de la venue des Jeux Olympiques à Londres. Donc on est dans ce Londres-là, il y a un personnage qui circule parmi beaucoup d'autres et qui porte des explosifs dans son sac à dos. Et puis, voilà, c'est assez chaotique. Hein.
C'est difficile à expliquer. C'est
oui,
vraiment...
mais c'est voulu. Donc, le metteur en scène, Olivier Coyette, a dit s'être inspiré aussi de ce qu'on connaît tous quand on va dans le métro et qu'on voit ces milliers de gens qui se croisent sans plus vraiment se voir, comme si on était devenu un petit peu transparent. C'est cette ambiance-là qu'il essaie de reconstituer sur le plateau.
Ça veut dire qu'il y a combien de personnes sur
le plateau ? Ça veut dire qu'il y a souvent un couple mis à l'avant, mais il y a toujours constamment des choses qui se passent en même temps. Donc, c'est très difficile de se concentrer sur ce qui se passe à l'avant-plan, parce qu'à l'arrière-plan, il y a des scènes très explicites où, bon, je vous passe les détails, mais vous imaginez des scènes assez dérangeantes, sexuelles.
On n'imagine pas,
fluide,
mais heureusement qu'on nous a dit qu'il y a beaucoup de masturbation.
Voilà. Bon, ça
ne
s'appelle pas pornographie pour rien. Et je trouve que ça, c'est assez réussi, en fait. Donc, on voit en même temps des vies, des existences assez seules, où le sexe est omniprésent et en même temps pas vraiment épanouissant. Voilà, il y a une veuve un peu dépressive, il y a un adolescent raciste, il y a un prof du NIF un peu mal à l'aise avec les avances d'une ancienne étudiante. Donc on suit tout ça et en même temps on est perturbé par ce qui se passe à l'arrière.
C'est un peu justement quand on est dans la foule du métro et que parfois notre oreille s'attarde à une histoire comme ça et on chope quelque chose sans avoir le début ni la fin et ça arrive comme ça. Il y a 6-7 histoires comme ça qui nous
sont inspirées. Ça veut dire quoi ? C'est un théâtre de bribes ? Donc on est constamment haché et donc on doit nous-mêmes être actifs en
tant que spectateur. En fait, ce qu'il y a, c'est que les histoires sont quand même menées plus ou moins jusqu'au bout, en tout cas assez pour en savoir quelque chose.
Ce sont des bouts d'existence.
Mais jamais de manière linéaire, donc c'est un côté, puis l'autre. Voilà.
Et donc ça force le spectateur à driller, quoi, à aller partout sur scène.
Oui, et ça marche très bien dans la première partie, mais la deuxième partie est beaucoup moins réussie.
Moi, je suis déjà un petit peu perdue parce que je n'ai pas vu. Et puis j'entends les attentats à Londres et puis la pornographie, quoi, liée. Comment est-ce
je pense que c'est la déshumanisation des grandes villes, une grande ville comme Londres.
Et puis la pornographie aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est du voyeurisme. Et ce qui s'est passé dans l'après-attentat et plein de choses, même après le 11 septembre, c'était que Londres a marqué le monde en mettant des caméras partout, des caméras de surveillance. Maintenant, quand on va encore à Londres, on voit tous ces CCTV qui sont partout. Et ça marque, et ça a marqué Simon Stephens en tout cas, qui se dit, mais en fait, c'est un voyeurisme d'État maintenant, et c'est ça peut-être la vraie pornographie aujourd'hui.
Et comment ça se joue sur le plateau niveau scénographique ? Est-ce qu'il y a par exemple des multimédias ? Est-ce qu'il y a des caméras ?
Non, en fait, il y a un avant-plan en plan incliné. Et puis, il y a plusieurs niveaux. En fait, ça se joue surtout dans la perspective. Donc, il se passe à l'avant-plan, et puis au milieu du plateau, et puis derrière le plateau. Puis, on voit quelqu'un qui regarde un film porno à la télé, un autre qui se déshabille.
Catherine, le bémol pour toi, parce que tu n'as pas été totalement emballée.
Mais j'ai bien aimé ce parti pris, très étonnant. On est perturbé, mais en même temps, comme il se passe plein de choses, on est à la fois captivé, c'est repoussant et intéressant. Sauf que la deuxième partie est beaucoup plus fade. Les histoires m'ont paru moins intéressantes. Il y a une histoire d'inceste entre un frère et une sœur. Et puis, mais dans la deuxième partie, ça raconte moins de choses pour moi. Et puis, surtout, c'est complètement désordonné. Donc, c'est intéressant au début, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle. Évidemment.
Et moi, ce qui m'a essoufflé aussi un petit peu, c'est la mise en scène, c'est cette multiplicité de plans qui, comme c'est déjà des histoires de bribes, où il faut quand même vite capter pour pouvoir essayer d'avancer dans le spectacle, on est attiré quand même de l'autre côté, on ne sait plus très bien ce qu'on doit regarder. Moi, ça me gêne toujours un petit peu, ça, mais bon, voilà.
Est-ce qu'il aurait dû mettre le spectateur autrement, plutôt que frontal, alors, d'être complètement dans la dynamique du spectacle?
Oui, en faisant une autre mise en scène, mais bon, mais là, ce n'est pas le propos.
Non, mais parce qu'on a déjà vu des mises en scène où il y a plein de choses qui se passent dans tous les sens, où là, on a intérêt à mettre les baskets en tant que spectateur. Je me souviens de spectacles comme ça, du Kunst Interactif, où il y a donc, à un moment donné, on perd des bribes, mais on en a récupéré d'autres, et puis on retrouve. Donc, il y a le spectateur est pris dans un souffle lui-même.
En tout cas, il faut saluer la performance des comédiens, parce que c'est vraiment pas facile, je pense, de jouer, de se concentrer quand il se passe comme ça plein de choses qui distraient l'attention.
Est-ce que finalement, il y a une fable ou est-ce que
on peut pas trop en dévoiler, parce que là encore, il y a une fin qui nous ramène à une certaine réalité dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a une forme d'hommage à certaines personnes. Je vais pas le dire, parce que ça dévoile, évidemment. Mais c'est le ressenti d'un artiste, en fait, sur ce qu'il voit dans son époque et qui rattache au réel juste à la fin. Et peut-être que là, cette cohésion, il y a tellement de choses, il dit tellement de choses, il veut dire tellement de choses que on en perd la boule, quoi.
Et est-ce que le titre est adéquat? Parce que finalement, le mot pornographie pour dire la vulgarité de l'époque ou quelque chose du voyeurisme d'État, c'est un peu facile. Alors Catherine, est-ce que le titre est pertinent?
C'est de la provocation. Oui, c'est pertinent. De ce que je vous ai raconté, vous devinez qu'on est en plein dedans. Mais
surtout dans les gestes et les positions de certains personnages.
Oui, mais au niveau de la métaphore de la société, est-ce que...
Mais là encore, comme je ne suis pas séduite par le spectacle, pour moi, le message n'est pas complètement parvenu. Pourquoi pas?
C'est à voir aux poches.
C'est à voir aux poches. Alors, un petit mot. Donc, c'est une équipe habituelle du poche. Benoît Van Dorslar, Nicole Van Berg, Jérémy Petrus, Flavla Papadaniel, Frédéric Guesquière et Annabelle Lopez. Comme ça, je suis complet. Et c'est à voir, donc, pornographie jusqu'au 4 octobre du côté du théâtre de poche, www.poche.be.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Et on va direct au théâtre Le Poème. Rien à voir, ambiance intimiste pour Tserklas de Tilly que Elisabeth est partie voir pour nous.
Voilà, alors, Le Poème 2, reste fidèle à ses habitudes. C'est un théâtre littéraire, c'est un théâtre qui a toujours eu cette vocation et c'est pour ça que je me suis engagée dans ce spectacle-là et cette proposition-là qui est de découvrir de consacrer 2 mois à William Cliff, qui est un poète belge, publié chez Gallimard, etc., etc. On voit juste à son visage que c'est quelqu'un de bien tourmenté. Là, il suffit de voir l'affiche, on a compris tout de suite. C'est aussi une plume. Aussi, moi, j'avais des souvenirs quand même de cette plume et cette plume,
un de nos grands auteurs belges.
Voilà, quand même. Et donc, c'est déjà quand même pas mal de mettre ça sur la scène. Et c'est un défi en soi, il faut le souligner. Alors, William Cliff s'est intéressé à un personnage historique belge dont, personnellement, j'ignorais absolument tout. Mais je pense ne pas être la seule. Alors, il s'agit de Tserklas de Tilly, qui est en fait quelqu'un qui est né dans le Brabant wallon. Donc, c'est pas très, très loin de nous. En 1559. Et il a vécu jusqu'en 1632. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est quelqu'un de célèbre? Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui a une vraie statue en pierre avec des pigeons qui chient dessus et tout ça à Munich? Parce que tout simplement, c'était un grand général du Saint-Empire et c'était un homme de guerre absolument renommé, quelqu'un qui défendait l'Église catholique par-dessus tout.
Et pourquoi Cliff a déterré une statue?
Il n'a pas déterré la statue, c'est simplement qu'à la fin de ce texte, de ce monologue finalement, Tserklas de Tilly s'interroge sur la statue qu'on lui a faite et se demande « Mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait cette statue ?» Mais c'est juste pour dire que cette statue existe vraiment et que c'est un peu quelque chose qui nous échappe. Donc c'est vrai que ça
peut... Il y a une mise en abyme du personnage, c'est un monologue du personnage qui se raconte.
Oui, non, mais le texte est construit de manière littéraire et à cette mise en abîme, comme tu viens de le souligner, de Dolores Oscari, qui signe la mise en scène, on a rajouté une autre puisqu'on a 2 comédiens qui incarnent et le personnage jeune et le personnage âgé et qui se répondent, etc. Ce qui crée bien sûr une dynamique aussi parce qu'il faut porter le texte, c'est un texte à porter. On est vraiment dans une performance. Alors on a Julien Roy qui est évidemment un grand comédien, un pédagogue, enfin tout ça, qui a une belle carrière, on est obligé de dire derrière lui parce qu'il l'a faite quand même. Mm-hmm. Et puis à côté de lui, il y a un tout jeune comédien de 23 ans et on a ces comédiens qui ont vraiment la tête de l'emploi. On a encore une personne qui est là avec une présence tout à fait muette. Et donc, on a ce jeu entre le passé, le présent, ce dialogue qui est là, ce qui fait que, ben, voilà, on se laisse quand même rentrer dedans, même si c'est difficile de partir à la découverte d'un personnage dont on ne sait rien avant. Et je dois bien avouer que l'histoire de Saint-Empire m'échappe un peu. Hein.
Et est-ce que l'histoire du personnage est intéressante, finalement? Est-ce qu'on arrive à magnifier?
Ben, l'histoire du personnage, elle est intéressante. Maintenant, elle ne m'a pas particulièrement percutée parce que c'est une histoire qui finalement débouche sur le mysticisme. Alors il faut qu'on puisse rentrer dans ce genre de choses-là parce qu'on voit ce guerrier qui menait des combats absolument, qui était aussi d'un ascétisme féroce. Enfin bon, tout était vraiment l'image qu'on peut avoir d'un guerrier à l'ancienne. On se battait pas en posant sur un bouton pour un missile à l'époque quand même. On y allait pas à pied mais à cheval. Mais voilà. Et puis finalement, il y a cette quête de Dieu qui apparaît là.
Et alors, je me disais par rapport à Cabaret, ce genre de questions qu'on vient chercher une pièce et qu'on la date, qu'on la place voilà. Là, on la place en 1930. Ici, on est en 1500. Est-ce qu'il y a un propos qui arrive à nous toucher ici et maintenant?
Oui, bien sûr, ce propos arrive à nous toucher si on arrive à passer par la barrière et si on se laisse rentrer justement dans la découverte de ce personnage et de cette réalité historique qui nous échappe, mais en même temps, ça peut être la Palestine, ça peut être des choses comme ça, parce que c'était quoi les guerres de religion? On est quand même encore en plein dedans aussi. Et il y a quelques phrases comme ça sur la nécessité de la guerre, le pourquoi de la guerre. Donc tout ce sous-texte est là, mais c'est pas... C'est là, sans être mis en avant.
Parce que c'est un long poème, est-ce que la langue nous parle encore aussi?
La langue, moi, je la trouve magnifique. Mais il faut aimer la langue, il faut aimer il faut aimer ce théâtre-là. C'est un théâtre qui nécessite d'être porté, qui nécessite de la part des comédiens une énergie de tous les instants. On sent que l'arc doit être tendu tout le temps, tout le temps. Parce que sinon, effectivement, ça ne passe pas. Mais cette langue, oui, peut nous parler si on aime ça, quoi.
Et une écoute de la part du spectateur.
Ah, bien sûr, il y a une écoute de la part du spectateur.
C'est marrant parce qu'ici, on a trois positions de spectateurs sur trois spectacles. La musique, hop, hop, les numéros. Les bribes où ça va dans tous les sens. Le spectateur, il doit quasi fighter avec la scène. Et ici, il a intérêt à être concentré sur le fil de la poésie. Comme quoi, on peut faire trois expériences de spectateurs.
Non, bien sûr.
J'ai encore une quatrième après, pour celui d'après.
C'est vrai que c'est de l'ordre de l'expérience. Je ne pense pas que ce soit un spectacle accessible, justement, si on n'a pas ce goût de la langue ou si on n'a pas envie de se prêter au jeu. Bon, il faut savoir que c'est quand même un petit format, on n'est pas parti pour 3 heures non plus.
Merci, Dolores.
Voilà, ou William peut-être. Ouais, William. Mais la mise en scène aussi avec ce redoublement des personnages, on passe tantôt de l'un à l'autre. Il faut dire aussi qu'il y a me semble-t-il, un équilibre quand même assez réussi entre la musique qui est là en tapis, qui vient souligner les choses, parce qu'il y a pas mal d'enjeux là-dedans, c'est comment vous représentez une bataille. Hein. Donc on peut la représenter par moment sur une scène, on peut la représenter par moment par la musique et puis par l'image. Donc tout ça, il y a quand même pas mal d'équilibre. Et voilà. Donc c'est vraiment... spectacle pour initier.
Et puis peut-être rappeler qu'il y a tout un événement consacré à William Cliff au poème 2 avec la reprise des Damnés que moi j'ai vu et que je conseille absolument sur Rimbaud et Verlaine, Amant, Maudit, lié à la Belgique. Magnifique.
Alors ça, c'est tout ça sur le site du poème.
Alors, petite précision aussi, soyez attentifs, c'est à 20h. Hein.
Ah, ok.
C'est toujours bien à savoir.
Et c'est jusqu'au 28 septembre pour Tsérclas de Tilly.
Voilà, après trois spectacles, cabaret, pornographie et Tsérclas de Tilly, on va faire un peu quelques annonces. Ce week-end, Canal Festival, quand même, quelques éditions, spectacle de rue, il y a énormément. C'est revitalisation des quartiers, mais avec une dimension artistique qui est très ambitieuse. Il y aura par exemple un événement, parce que c'est un peu inédit, Wim van de Keibus, qui a un studio par là et qui danse avec des gens du quartier sur une place à Molenbeek. Il y a aussi Toufik Izediou. Alors Toufik Izediou, c'est un chorégraphe de Marrakech qui met là-bas un festival de danse, mais vraiment danse contemporaine à l'arraché où tout est à reconstruire. Il est ici, il fait un spectacle, une performance de 100 pas, donc c'est sur la marche et c'est avec une centaine de figurants. Ça, c'est les deux, trois que j'ai repérer. Il y a un performeur allemand qui fait des origamis sur le canal même. Donc, c'est vraiment quelque chose de très festif et d'une belle ambition. C'est pas juste de la simple animation pure, c'est vraiment l'art dans l'espace public. C'est ce week-end, évidemment, c'est gratuit du côté du canal, près du Caille Theater qui sont...
Bon, moi, j'ai remarqué qu'on peut aussi monter sur le toit d'un immeuble et regarder à travers un téléobjectif des détails du panorama. Et là, on voit des performeurs qui jouent au milieu des passants. Ça a l'air très intéressant.
Mais c'est vraiment bien ficelé. Il y a énormément. Et là-bas, il y a plein de ressources artistiques. Il y a une dynamique qui se met en place. Donc ça, c'est pour le Festival Canal. Un petit festival très confiné. C'est à la Cinémathèque, de soir, jeudi et vendredi. C'est le festival, c'est la 3e édition. L'art difficile de filmer la danse. Alors, il y a des captations de danse où on pose la caméra et on filme la danse comme un outil. Et puis, il y a vraiment l'art de filmer expérimentalement la danse. Chacun a vu Wim Wenders pour Pina Bausch, mais là ça va au-delà, c'est vraiment très expérimental. Et ils ont pris un thème ici, c'est la danse, il y a un thème historique aussi, c'est la danse française. Donc on va voir des moments de 1900, des captations de films de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et ça se passe au Danszentrum Jet et à la Cinémathèque. C'est vraiment, qu'on aime la danse ou pas, moi j'ai vu quelques extraits vidéo, c'est très surprenant parce que c'est le film expérimental, donc c'est vraiment pour les amateurs d'expérimentation. Et puis Catherine, il y a un anniversaire cette année.
L'atelier 210 qui fête ses 10 ans, l'atelier 210 sur la chaussée Saint-Pierre, un lieu qui défend la création théâtrale avec peu de moyens. Depuis longtemps, ils essaient de signer un contrat programme, c'est pas facile, ça devient de plus en plus difficile. Malgré ça, ils ont voulu rester optimistes et donc faire la fête pour leurs 10 ans en offrant 210 heures non-stop de spectacles et de concerts et de surprises. Donc il y aura un spectacle qui s'appelle « Délivrance » où le spectacle se joue avec des dés. Tout ça pour interroger évidemment le hasard, l'arbitraire, la soumission des artistes à cette contrainte-là. Et puis ensuite, ce sera suivi par un bal du hasard, il y aura une crêpe partie, il y aura des concerts. Voilà, ça vaut la peine d'aller faire la fête avec un lieu qui en vaut la peine.
Ce qui est touchant pour l'atelier 210, ça a été un des premiers lieux qui a mêlé théâtre et concert. Donc ça pouvait être deux lieux comme ça qui pouvaient se mélanger, deux milieux qui pouvaient se mélanger. Je trouve ça, c'est un très beau pari qu'ils ont fait parce qu'il y a quand même des gens qui vont que à des concerts et qui malgré tout vont au théâtre. Donc c'est vraiment un beau pari pour l'atelier 210. On espère juste qu'ils aient un peu plus de sous, que la communauté française entend ce lieu quand même jeune et dynamique sur le coin. Donc bon anniversaire à l'atelier 210. Ainsi se termine la conspiration des planches. C'est parti pour une saison chargée. Bonne planche à tous, à la semaine prochaine.
Et vous pouvez nous retrouver demain donc en rediffusion à 13h30 sur Radio Campus et le podcast sur demandezleprogramme.be. La conspiración.